VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition des 18h30, temps universel du mercredi 18 septembre 2019. John Lyndon pour vous présenter cette édition. Tout d'abord, les titres. Sylvestre Mouta Tchoumoura, commandant des rebelles des FDLR, a été abattu cette nuit par l'armée congolaise dans l'est de la RDC. Drame au Libéria, où une trentaine d'élèves d'une école coranique ont péri dans un incendie. Un durcissement substantiel des sanctions contre l'Iran, c'est ce qu'annonce Donald Trump après les attaques contre les installations pétrolières en Arabie Saoudite. Et puis, ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Sylvestre Mouta Tchoumoura, chef de la rébellion hutu-rwandaise des FDLR, a été abattu par l'armée congolaise à 60 km de Goma. Il s'était installé depuis 25 ans dans l'est de la RDC. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Sylvestre Mouta Tchoumoura a été neutralisé de manière définitive par notre armée. Il a été abattu dans la nuit de mardi à mercredi dans le nord Kivu, a déclaré le général Léon Richard Kasonga, porte-parole de l'armée congolaise. La mort de Sylvestre Mouta Tchoumoura est une bonne nouvelle pour la paix et la sécurité dans la région, a réagi de son côté Olivier Ndungirie, secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères. Il a poursuivi que cela confirme l'engagement du président Félix Tshisekedi à combattre les forces négatives et ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération positive et pacifique entre la RDC et les pays de la région. Sylvestre Mouta Tchoumoura était le commandant suprême des FDLR, dont les combattants sont disséminés dans les provinces du nord et du sud Kivu et dans le nord du Katanga. Ces combattants sont souvent accusés de commettre des atrocités contre les civils dans les zones sous leur contrôle, de recruter de force des enfants et de piller des villages, en plus de se livrer à des trafics d'or et de bois. Mouta Tchoumoura était poursuivi par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre. La rébellion rwandaise des FDLR a été créée par les Hutus rwandais réfugiés dans l'est de la RDC après le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994. Ils sont opposés au pouvoir de Kigali.
Toujours en République démocratique du Congo, l'ex-ministre de la Santé, Oli Ilunga, a été inculpé pour détournement présumé de fonds alloués à la lutte anti-Ebola. Le docteur Oli Ilunga, 59 ans, a été placé en résidence surveillée à Kinshasa après une journée d'audition mardi au parquet, selon son avocat Guy Kabea, qui a fait savoir que l'instruction du fond du dossier continue. M. Ilunga, médecin en Belgique avant d'être ministre, avait été interpellé samedi par la police accusée de vouloir gagner l'étranger. Il était sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire national. La situation de Kidal, grande ville du nord-est du Mali, suscite l'inquiétude des pays de la sous-région pour lesquels cette localité servirait de base arrière à des djihadistes. Une accusation lancée publiquement par le président du Niger, Mahamadou Issoufou, début septembre, et répétée par Mamane Sidikou, secrétaire général de la force du G5 Sahel. Cette controverse a entraîné le report de la réunion du CSA, le comité de suivi de l'accord d'Alger de 2015, réunion initialement prévue à Kidal hier mardi. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti de l'opposition de l'opposant Maurice Kamto, exige la libération du leader et de ses alliés avant de participer au dialogue national proposé par le président Paul Biya. Monsieur Kamto a adressé un mémorandum au premier ministre Joseph Dion Nguté. Il réclame également la participation des leaders anglophones, une amnistie générale pour toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la crise dans les zones anglophones du pays. Au Libéria, 26 élèves et 2 enseignants d'une école coranique près de Monrovia ont perdu la vie dans un incendie d'origine indéterminée. C'est ce qu'a indiqué la présidence. On fait le point avec Abdourahmane Dia.
Le président George Weah s'est rendu sur le lieu à Pentville, en faubourg de Monrovia. J'adresse mes prières aux familles des enfants qui sont morts la nuit dernière à Pentville dans l'incendie qui a ravagé leur école, a tweeté le président libérien. C'est un moment éprouvant pour les familles des victimes et pour tout le Libéria, a-t-il ajouté. Selon Solo Kelbe, porte-parole du président, Les victimes sont âgées entre 10 et 20 ans. Il y avait seulement 2 adultes. Les proches venus chercher des nouvelles de leurs enfants se pressaient autour du bâtiment qui renferme une école et un internat et dont la toiture en tôle a brûlé. Les enfants ont été surpris pendant leur sommeil, a dit Amadou Chérif, un responsable de la communauté Peul dont sont issues les victimes. Il a dit avoir été appelé sur place dans la nuit et avoir dénombré 37 enfants tués et 2 rescapés. Mais ce bilan n'a pas été confirmé.
Plusieurs milliers de personnes sont descendues mercredi dans les rues de plusieurs villes du Malawi pour dénoncer une nouvelle fois la réélection du président Peter Mutharika, proclamé à l'issue des élections générales de mai dernier. M. Mutharika a été réélu avec 38,57% des suffrages devant son principal adversaire, Lazarus Chakwera, qui avait enregistré 35,41% selon les résultats publiés par la commission électorale. L'opposition dénonce depuis des fraudes pendant le dépouillement, dont l'existence d'un nombre anormalement élevé de bulletins de vote recouverts de correcteurs blancs. Et puis en Égypte, 9 djihadistes présumés dont un responsable ont été tués dans des échanges de tirs lors de 2 descentes de la police dans l'est et le sud du Caire, selon le ministère de l'Intérieur, qui n'a cependant pas précisé si les fusillades avaient fait des victimes du côté des forces de l'ordre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump a annoncé un durcissement substantiel des sanctions contre l'Iran après les attaques de samedi contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite dont la responsabilité a été imputée à Téhéran par Washington. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo est attendu ce mercredi à Jeddah. Nathalie Barge.
Ces sanctions viendront s'ajouter aux mesures punitives déjà imposées par Washington à Téhéran depuis que Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien en mai 2018. L'administration américaine n'exclut pas des représailles militaires après ce qu'elle dénonce comme une attaque sans précédent contre l'approvisionnement mondial en pétrole. Le président américain s'est montré moins catégorique que ses ministres sur la responsabilité de l'Iran dans ses attaques. Selon M. Trump, Téhéran est le principal suspect. Il avait assuré dimanche être prêt à riposter et disposer de nombreuses options. La mesure a été saluée par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est précisément le moment de renforcer les pressions et les sanctions, a déclaré M. Netanyahou dans un communiqué.
Ajoutons dans le même registre que le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a accusé mercredi Washington de viser délibérément les civils iraniens en durcissant ses sanctions contre Téhéran. Le président américain Donald Trump, en annonçant de nouvelles sanctions contre Téhéran, admet que les États-Unis ciblent délibérément des civils ordinaires, a écrit M. Zarif sur Twitter, qualifiant les mesures américaines d'illégales et inhumaines. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou apparaît menacé ce mercredi au lendemain d'élections législatives qui le placent à égalité avec son rival Benny Gantz. Difficile donc pour lui de former un gouvernement. Place à présent à des tractations douloureuses pour former une coalition. Les précisions avec Irénée Herman Umbo.
Le parti Likoud de Benjamin Netanyahou et la formation centriste blanc-bleu de Benny Gantz obtiennent chacun 32 sièges sur les 120 de la Knesset et ne parviennent pas, même avec leurs alliés respectifs, à franchir le seuil des 61 députés pour obtenir une majorité. Nous allons attendre les résultats finaux et souhaiter à Israël un gouvernement d'union, a déclaré M. Gantz. Netanyahou, de son côté, a appelé à la formation d'un gouvernement sioniste fort sans la participation des partis arabes anti-sionistes. En Israël, le président consulte les députés élus qui doivent lui recommander un chef de gouvernement. Or, les partis arabes, hostiles au premier ministre en poste et qui sont en passe de s'imposer comme la troisième force politique à la Knesset avec 12 sièges, ont déjà suggéré qu'ils allaient s'opposer à la désignation de M. Netanyahou sans confirmer s'ils allaient soutenir celle de Benny Gantz. L'ère Netanyahou s'est achevée, a déclaré dans la nuit Ahmed Tibi, l'un des ténors de la liste unie des partis arabes. Si Benny Gantz appelle, nous lui communiquerons nos conditions pour le soutenir, a-t-il ajouté.
Le risque d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord reste très réel. C'est l'avertissement lancé ce mercredi par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à 6 semaines de la date prévue du Brexit. Les responsables de l'Union européenne appellent par conséquent Londres à ne pas faire semblant de négocier pour éviter un divorce brutal. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a estimé mardi que l'accord de Paris sur le climat n'avait pas encore échoué, mais que le temps était compté pour éviter la catastrophe climatique. Samedi, le patron des Nations Unies accueillera un sommet de la jeunesse sur le climat à New York, puis lundi un sommet spécial climat avec des chefs d'État et de gouvernement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est dans la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Niger et la Chine ont lancé la construction d'un oléoduc de 2000 km afin d'exporter du pétrole brut à partir des champs d'Agadem dans le sud-est nigérien jusqu'au port de Sémé au Bénin. Les travaux du pipeline vont durer 42 mois et coûteront 4,5 milliards de dollars. Niamey a jusqu'ici privilégié l'évacuation de son brut par un port camerounais via le Tchad voisin, une zone actuellement victime d'incursions meurtrières des djihadistes de Boko Haram basés au Nigeria voisin. L'Angola envisage de créer une bourse aux diamants qui remplacera sa société de commerce de diamants Sodiam. Celle-ci est actuellement responsable de l'achat et de la vente de tous les diamants semi-industriels et artisanaux et de 60% des diamants produits dans le circuit industriel. La restructuration en cours du sous-secteur des mines comprend également la fermeture de la société de fer angolaise Ferrangol et sa transformation en Agence nationale des ressources minérales. Elle inclut aussi la privatisation partielle de la Société nationale de prospection, d'exploration, de taille et de commerce du diamant Ndiama. Pour terminer, le président congolais Félix Tshisekedi a conclu en Belgique des accords diplomatiques et économiques avec un accent sur les diamants et pour intensifier la coopération entre le port d'Anvers avec le port de Matadi sur le fleuve Congo.
Yacouba Ouedraogo nous a retrouvés et c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par l'Égypte qui est privée des mondiaux d'haltérophilie.
Oui, l'Égypte a été suspendue par la Fédération internationale d'haltérophilie pour des cas de dopage. Le pays des pharaons ne participera donc pas aux championnats du monde qui ont débuté aujourd'hui en Thaïlande et se poursuivront jusqu'au 27 septembre. Cette suspension fait suite à une série de 7 contrôles antidopage positifs chez les jeunes haltérophiles en 2016. La fédération égyptienne dispose de 21 jours pour faire appel devant le tribunal arbitral du sport. L'Égypte pourrait en théorie être aussi écartée des Jeux olympiques de Tokyo 2020 si le TAS confirme sa suspension. L'haltérophilie a rapporté à l'Égypte un total de 31 médailles décrochées au cours de ses 22 participations aux Jeux olympiques.
Le club tunisien du CS Sfaxien se sépare de son entraîneur Yacouba.
Après un début moyen en Ligue 1 tunisienne, la défaite 1-3 du CS Sfaxien en Coupe CAF contre Paradou AC est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les dirigeants du club tunisien ont alors décidé de se séparer de l'entraîneur Jovevic Neboja. En poste depuis août dernier, le Monténégrin était sous contrat jusqu'en 2020. Il n'a dirigé que 4 rencontres à la tête des Bianconeros, avec un bilan moyen de 2 défaites, 1 victoire et 1 succès dans les tirs au but en finale de la Coupe de la Tunisie devant l'Étoile du Sahel.
Et on aura droit à la Ligue des champions UEFA ce soir.
L'Atlético Madrid défie la Juventus Turin, son renversant bourreau du printemps dernier. Dans un choc entre la star Cristiano Ronaldo et l'étoile montante Joao Félix, les Colchoneros gardent en travers de la gorge leur élimination dès les 8e de finale. La faute au Bianconeri et à Ronaldo, auteur d'un triplé lors d'une folle remontada. En 8e de finale, retour 3-0 après une défaite 2-0 des Turinois à l'aller. Le Paris Saint-Germain, privé de ses stars Neymar et Kylian Mbappé, démarre sa quête du Graal au Parc des Princes face au Real Madrid.
Enfin, Yacouba, Youri Djorkaeff à la tête de la Fondation FIFA.
L'ancien international français de 51 ans, qui a mis un terme à sa carrière en 2006, a été nommé à la tête de la fondation FIFA. Créée en 2018, cette fondation mène des programmes sociaux dans le monde et aide à la reconstruction d'infrastructures sportives. L'anglaise Joyce Cook, déjà à la tête de la division en charge des relations avec les fédérations membres de la FIFA, occupera la fonction de secrétaire général de la fondation. Champion du monde en 1998, Youri Djorkaeff, passé par Monaco, le Paris Saint-Germain ou encore les Red Bulls de New York, où il a mis fin à sa carrière, a depuis lors été impliqué dans différents projets de développement et a créé sa propre fondation en 2014.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. La mort de Sylvestre Mouda Tchoumoura, commandant de la rébellion Hutu des FDLR, est une bonne nouvelle pour la paix et la sécurité dans la région. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire rwandais aux affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, sur la mort de ce chef rebelle qui était recherché par la CPI pour crime de guerre. Idriss Fall a recueilli la réaction du général Richard Kasonga, porte-parole de l'armée congolaise.
Ce qui s'est passé, il a été neutralisé de manière définitive après une opération menée de manière professionnelle. Il a été localisé, identifié ensuite, neutralisé définitivement dans le territoire de Rutshuru, dans le groupement Bouito. L'unité militaire a fait ce travail-là de manière professionnelle dans le strict respect des droits de l'homme et se soumise aux personnages auteurs de plusieurs violences, actes terroristes. A donc été neutralisé de manière définitive par nos forces.
Il était avec d'autres rebelles et combien?
Je ne peux pas vous donner le bilan en ce moment. Laisser l'armée faire son travail, ce qu'elle sait faire de manière professionnelle, c'est-à-dire nettoyer le secteur. Et ensuite, le bilan sera communiqué en temps utile. Mais ce que je peux dire en ce moment précis, c'est qu'il avait quelques lieutenants avec lui. Et lui et tous ses lieutenants ont été neutralisés définitivement.
Est-ce que ça signifie que les rebelles FDLR sont complètement décapités, neutralisés et mis en déroute?
Je voudrais avoir le bonheur de vous le dire, mais je ne peux pas le dire en ce moment. Ce que je sais, c'est que nous lançons un appel. Nous, Forces armées de la République, nous lançons un appel en ce moment à tous les groupes armés locaux qui sont encore, qui sont encore en euphorie, de sortir et de se rendre immédiatement déposer les armes, parce que sinon, ce groupe-là va subir le même sort que celui qu'a connu Mouda Tchoumoura et sa bande.
Il y avait beaucoup de FDLR qui avaient accepté de déposer les armes. Où en est-on dans ces opérations pour les ramener au Rwanda?
Je vous informe que tous ceux qui avaient été déposer les armes avaient été regroupés. Kanyabayonga, à Walungu, à Kisangani, à Ngenga, ont été ramenés dans leur pays sans problème. Et nous pensons que c'était la voie de la sagesse parce qu'ils sont partis. Et tous ceux qui seraient restés dans le forêt ou qui n'auraient pas entendu cette voix-là, qu'ils sachent que s'ils ne déposent pas les armes pour se rendre, ils seront traités comme Mouda Tchoumoura, sans distinction.
Après les FDLR, quand sera-t-il des rebelles ADF dans la région de Beni, qui sont aussi des étrangers apparemment?
Oui, je vous ai dit que les forces armées mènent des opérations d'envergure pour neutraliser tous les groupes armés locaux et externes. Les opérations, c'est pour zéro groupe armé interne ou externe des nations congolaises, du moins de la partie orientale.
Le général Richard Kasonga, porte-parole de l'armée congolaise.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, nous revenons sur les violences xénophobes en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a envoyé une mission dans plusieurs pays pour rassurer ses homologues et réaffirmer que l'Afrique du Sud était toujours ouverte aux migrants du continent et il a promis de punir les auteurs de ces actes haineux. Cette offensive de charme réussira-t-elle à calmer la colère de plusieurs gouvernements envers Pretoria? Ces violences remettent-elles en cause les idéaux panafricanistes sur le continent? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Direction le Mali, l'annulation mardi de la réunion du comité de suivi de l'application de l'accord de paix semble compliquer la tâche de la médiation internationale. La CMA, la coalition ex-rebelle, pose désormais des conditions pour toute participation à la tenue d'une réunion avec le gouvernement. Ce blocage fait suite aux questions soulevées autour du statut des Kidal sous contrôle des ex-rebelles. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint Nuhung Togo, opposant politique et expert des questions de sécurité.
Depuis quelques temps, nous avons des problèmes très sérieux concernant tout ce qui s'est passé à Kidal avec des drapeaux du Mali qui ont été brûlés. Les autorités n'arrivent pas à aller, mais jusqu'à présent, c'est qu'on continue à dire que Kidal est avec Bamako. Je pense que vraiment qu'on a des problèmes très sérieux avec Kidal.
Et qui contrôle Kidal alors?
Kidal est contrôlé par la CEMA aujourd'hui.
La CEMA qui est une coalition de groupes armés.
Le groupe armé, les signataires donc de l'accord. Le groupe armé est né là, qui s'est transformé en CEMA. Donc aujourd'hui, c'est eux qui gèrent Kidal.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Nos amis français qui n'ont pas été très sincères avec nous, parce qu'on est arrivé vers la porte de Kidal, on nous a fait arrêter à Kidal. Le MLA où la CEMA n'existait pas, la CEMA a été recréée et ils ont équipé donc la CEMA. La CEMA contrôle aujourd'hui Kidal avec leur complicité. Après Tombouctou et Kao, on pouvait donc rentrer à Kidal, mais l'armée française, la politique française n'a pas autorisé l'armée malienne d'aller à Kidal.
Et pourquoi donc?
C'est une très belle question qu'on doit poser. Vous savez, nous avons vécu beaucoup de cas similaires ici. Autant Nicolas Sarkozy, ils sont même venus ici pour nous demander l'autonomie. En son temps, j'étais conseiller en communication au ministère de la Défense. Nous avons refusé.
Quelle est la position de Koulouba, la présidence malienne notamment, sur la question?
Les Maliens constatent avec beaucoup de regrets. Le président n'a plus de poigne pour faire face à ça. Parce que si vous l'avez suivi, le président de la République lui-même a fait des déclarations dans Chaîne Afrique pour dire que c'est que le choc. Ils voient des gens venir prendre leur indemnité et retourner à Kidal et continuer à nous combattre. Aujourd'hui, un président de la République n'a plus la force nécessaire de combattre aujourd'hui ceux qui sont contre la République et ceux qui sont des terroristes. Le cas Kidal inquiète la sous-région, le cas Kidal inquiète Bamako, mais le président de la République n'arrive pas à prendre les tissus. C'est pour cela que le président nigérien est venu jusqu'à Bamako, au palais de Bamako, pour dire en face au président de la République du Mali, pour dire trop c'est trop, prenez vos responsabilités contre Kidal.
Comment est-ce qu'on pourrait faire pour sauver l'accord d'Alger?
L'accord d'Alger peut être sauvé seulement si les uns et les autres acceptent d'aller dans un débat franc, sincère. On sait en acceptant d'accepter certaines choses dans l'accord, c'est qu'on va vers la division de notre pays. Il est bon que l'ensemble des responsables face à la communauté internationale puissent revenir pour voir la réalité en face et renégocier l'accord pour voir ce qui est applicable qu'on applique et ce qui n'est pas applicable qu'on te dise la vérité en face. Parce que comme on le dit, tout problème bien posé a la solution. Mais là, si l'équation est très mal posée, il n'y a pas de solution.
Nuhung Togo, opposant politique et expert des questions de sécurité.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Le général Stephen Townsend, commandant de l'Africom, a réitéré le soutien de l'armée américaine au Burkina Faso pour faire face aux défis sécuritaires. Selon lui, Ouagadougou a besoin de vastes initiatives politiques, économiques et militaires pour contenir la menace sécuritaire. Le général Townsend l'a déclaré après une audience auprès du président Rochma Christian Kabore. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Niamey l'analyste et directeur du journal L'Événement, Moussa Aksar.
Le général Stephen a visité le Niger et le Burkina parce que vous savez, il y a un regain d'insécurité dans toute cette bande sahélienne. Il se trouve que déjà l'Africom intervient au Niger où les soldats américains ont pu fortifier certaines positions de l'armée nigérienne. Mais aussi, ils ont appuyé cette armée et également, ils ont formé assez de soldats d'élite de l'armée nigérienne. C'est pour cela que le général Stephen est passé par le Niger, qui constitue aujourd'hui la tête de pont des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et vous savez aussi que les États-Unis ont une base aérienne importante à Agadez et qui lui permet aux USA de mener des actions soit au Maghreb ou dans le Sahel pour lutter contre les terroristes. C'est pour cela que le général Stephen s'est rendu au Burkina Faso, qui constitue aujourd'hui, après le Mali, des maillons faibles dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.
Au-delà des équipements militaires et de la coopération, quelles sont les ressources dont le Burkina a besoin réellement pour stabiliser la situation?
Il faudrait tout d'abord former les soldats burkinabés. Vous avez eu vent ces dernières semaines du désengagement de certaines forces burkinabées le long de la frontière d'Al-Soum. Donc, le général Stéphane est parti notamment pour parler de cet état de fait-là et aussi voir dans quelles conditions appuyer les forces armées burkinabées en mettant aussi l'action sur les actions civilo-militaires dans ces pays.
Vous pensez que c'est pour cette raison qu'il dit que la solution doit venir des forces de défense et de sécurité burkinabées?
Oui, c'est pour cette raison, parce que vous savez, il y a un problème au sein des forces de défense et de sécurité burkinabées. Au niveau de la police, vous avez des syndicats de la police, ces forces auxiliaires, qui ne devraient pas exister dans des pays aujourd'hui qui luttent contre le terrorisme. Tant qu'on ne dissout pas les syndicats au sein des forces auxiliaires, on ne peut pas lutter contre le terrorisme à grande échelle, parce qu'il faut nécessairement les mettre sur des positions avancées, les former pour qu'elles soient intégrées dans les forces armées régulières. C'est pourquoi le général Stéphane a parlé de cet état de fait-là, des forces de défense burkinabées, mais aussi il faudrait faire en sorte qu'il y ait une réconciliation entre les forces de défense burkinabées, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et vous savez qu'il y a eu assez de problèmes avec le régime passé et le régime actuel sur la gestion des forces de défense et de sécurité.
Moussa Aksar, analyste et directeur du journal L'Événement. Depuis 2017, plus de 14 000 jeunes Nigérians sont rentrés de Libye dans le cadre d'un programme de rapatriement volontaire des Nations Unies. Beaucoup passent des mois, voire des années, bloqués en Libye, vendus comme esclaves par leurs passeurs. Mais une fois de retour au Nigeria, la vie est encore plus difficile qu'auparavant. Beaucoup se retrouvent endettés, en quête de travail, brisés par le traitement qu'ils ont subi aux mains des trafiquants. Arzuma Compaoré nous en dit plus.
Il fut un temps où Gloria rêvait d'une carrière internationale dans la mode. Mais depuis son retour au Nigeria, à Benin City, elle travaille comme couturière dans un atelier de la place pour un salaire mensuel de $40. Comme beaucoup de Nigérians qui ont tenté de fuir la pauvreté, c'est en Libye que le voyage pour l'Europe de Gloria a connu une interruption précoce. Après avoir vécu l'enfer pendant près d'un an bloquée en Libye, elle est la seule d'un groupe de 4 amis à avoir été rapatriée au Nigeria. Les 3 autres sont mortes pendant le voyage.
Mon père croyait simplement que si je voyageais, je pourrais aider la famille. À mon retour, c'est seulement à lui que j'ai raconté ce que j'ai vécu. Je ne l'ai dit à personne d'autre.
L'État d'Edo, qui a dû accueillir à lui tout seul 4 800 des 14 000 rapatriés depuis 2017, a mis en place un rare programme de soutien pour ces populations extrêmement vulnérables. Daré est la responsable du programme de formation professionnelle de l'État d'Edo.
C'est une priorité pour nous de donner aux rapatriés et aux jeunes, dont certains migrants, des emplois et des opportunités qui les intéressent. Ce qu'ils aimeraient faire, mais pas seulement cela. Nous ne voulons pas seulement les embaucher, nous voulons aussi leur offrir des carrières. We want them to be able to see
potential for growth. Selon le Bureau national des statistiques, 55% des moins de 35 ans n'avaient pas d'emploi au Nigeria fin 2018. Tike avait un petit boulot avant de tenter de gagner l'Europe en février 2017. 10 mois plus tard, il était de retour en Libye. Il vit aujourd'hui dans son minuscule appartement avec sa petite amie et leur fille de 4 mois.
Quand j'étais en Libye, je me suis dit, il faut survivre. Et c'était difficile. J'ai traversé beaucoup de choses. Mais si j'ai survécu 4 jours dans le désert sans manger, alors je pourrais jeûner 1 mois. Je suis mieux ici.
Tike est rentré physiquement, mais confie que son esprit est resté longtemps encore là-haut, en proie à la paranoïa et au trauma. Plus de 60 000 Nigérians sont toujours bloqués en Libye, pour la plupart dans des centres de détention ou entre les mains de trafiquants et milices.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition en bisanon de par Georges Léonard Sagno. Justin était à la console. John Lyndon vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous à l'écoute des programmes de VOA Afrique.